SBS Radio.
Principaux titres de l'actualité de ce mardi 24 septembre. Au siège de l'ONU, la jeune activiste Greta Thunberg fait la leçon aux dirigeants du monde. En France, c'est l'ouverture du procès de l'attentat raté de Notre-Dame. Et en Australie, la faillite du voyagiste Thomas Cook va faire perdre des millions de dollars à l'agence de voyage en ligne Webjet. On l'attendait depuis des semaines, cette fois ça y est, la jeune Suédoise et nouvelle égérie de la lutte contre le réchauffement climatique, Greta Thunberg, s'est enfin exprimée au siège des Nations Unies à l'occasion du sommet sur le climat. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a rhabillé pour l'hiver les grands dirigeants de ce monde au cours d'une allocution pleine d'émotions, mais aussi pleine de colère. On écoute un extrait de son discours traduit par Muriel Paradon pour RFI.
Comment osez-vous prétendre que tout cela peut être résolu en faisant comme d'habitude et en parlant de solutions technologiques ? Avec les émissions d'aujourd'hui, le budget CO2 qu'il nous reste aura entièrement disparu en moins de 8 ans et demi. Il n'y aura aucune solution ou plan assez ambitieux de présenter aujourd'hui parce que ces chiffres vous mettent trop mal à l'aise et vous n'êtes toujours pas assez mûr pour dire les choses telles qu'elles sont. Vous nous avez laissé tomber. Mais les jeunes commencent à comprendre votre trahison. Les yeux de toutes les générations futures sont rivés sur vous. Et si vous choisissez de nous laisser tomber, nous ne vous pardonnerons jamais. Nous ne vous laisserons pas faire. Ici et maintenant, nous fixons les règles. Le monde se réveille et le changement arrive, que vous le vouliez ou non.
And change is coming, whether you like it or not.
Et bien sûr, parmi les chefs d'État présents à ce sommet mondial sur le climat, il y a le président français Emmanuel Macron. Au nom de la France, il s'est engagé à hauteur de 1,5 milliard d'euros pour financer un fonds vert dont l'enveloppe totale pourrait atteindre 10 milliards de dollars américains. Mais Emmanuel Macron avait, juste avant son arrivée à New York, déclenché une vague d'indignation en Europe et plus particulièrement en Pologne. Il était alors interrogé dans son avion par des journalistes à propos des manifestations de jeunes en faveur du climat qui se sont déroulées un peu partout dans le monde le week-end dernier. Et il avait répondu que ces jeunes feraient mieux d'aller manifester en Pologne, un pays qui, selon lui, bloque toute avancée pour lutter contre le changement climatique en Europe. Les explications de Valérie Gasse pour RFI.
C'est en chemin vers New York, à bord de l'avion présidentiel, qu'Emmanuel Macron s'est laissé aller à quelques confidences en des termes peu diplomates qui rappellent le temps des dérapages verbaux. Interrogé par quelques journalistes présents à ses côtés sur les marches des jeunes pour le climat, il leur a conseillé d'aller manifester en Pologne pour l'aider à faire bouger ceux qu'il n'arrive pas à faire évoluer et a même ajouté la vérité, c'est qu'il y en a un qui bloque tout, c'est la Pologne. Des propos rapportés dans Le Parisien et qui ont provoqué des réactions immédiate dans la classe politique française. Jean-Luc Mélenchon a ironisé dans un tweet où il écrit « Le roi du mépris a parlé. Macron propose aux jeunes qui marchent pour le climat d'aller manifester en Pologne. Le bilan carbone serait pourtant meilleur en allant à l'Élysée. » Le porte-parole du Parti communiste Yann Brossa a lui dénoncé un fil rouge dans le quinquennat, mépris et arrogance. Même l'ambassade de Pologne a réagi sur Twitter en vantant ses avancées en matière de réduction des émissions de CO2 et en souhaitant à ses partenaires des résultats similaires. Voilà un début de polémique politique et diplomatique.
Et puis, Donald Trump s'est également rendu au siège des Nations Unies, mais pas pour y parler de climat. Le président des États-Unis a, lui, appelé les chefs d'État du reste de la planète à s'engager pour davantage protéger les libertés religieuses. D'après lui, 80% de la population mondiale vit dans des pays où la liberté de culte est menacée, restreinte, voire totalement inexistante. Il rappelle également que des croyants de toute confession sont emprisonnés, torturés et parfois même tués, souvent par leur propre gouvernement, et ce simplement parce qu'ils ont manifesté leur croyance. On l'écoute.
As we speak, Jews, Christians, Muslims, Buddhists, Hindus, Sikhs, Yazidis, and many other people of faith are being jailed, sanctioned, tortured, and even murdered.
often at the hands of their own government, simply for expressing their deeply held religious beliefs.
Et l'un des exemples de ces populations opprimées en raison de leurs croyances religieuses, c'est celui des Ouïghours, ces turcophones de confession musulmane qui vivent à l'ouest de la Chine. Une nouvelle vidéo a été publiée sur Internet et on y voit des centaines de Ouïghours menacés, les yeux bandés. On suppose qu'elle a été tournée dans la région du Xinjiang, à l'ouest de la Chine justement. Et ces Ouïghours y ont également la tête rasée. Ils semblent être transportés en train vers une gare du nord-ouest de la Chine. Des images profondément dérangeantes d'après la ministre australienne des Affaires étrangères, Maryse Payne, et qui ont été authentifiées par l'expert en imagerie satellitaire Nathan Russer.
Using open source methods and software as easily as available as Google Earth, it's possible to match tens of features in the video that you see to the ground reality, to the actual train station.
Et on rappelle à propos des Ouïghours que selon les Nations Unies, au moins 1 million d'entre eux seraient détenus dans des camps que Pékin qualifie de camps de rééducation. Une politique que le régime chinois justifie par la nécessité de lutter contre le terrorisme. Répression toujours, cette fois en Papouasie occidentale où l'armée indonésienne a annoncé la mort de 19 civils et d'un soldat lors d'émeutes dans 2 villes de cette province où les habitants estiment être racialement discriminés par les autorités et le gouvernement central à Jakarta. Le même porte-parole de l'armée a également indiqué que 65 personnes avaient été blessées dans la ville de Wamema où les manifestants auraient mis le feu à plusieurs bâtiments. Allez, on prend maintenant la direction de Paris où s'est ouvert hier le procès de l'attentat raté de Notre-Dame. Rappelez-vous, c'était en septembre 2016. La police avait retrouvé dans le coffre d'une voiture garée tout près de la cathédrale 6 bonbonnes de gaz. Depuis, 8 personnes ont été arrêtées, parmi lesquelles 6 femmes. On fait le point sur ce procès avec Marie Casadebé pour RFI.
Elles sont accusées d'avoir tenté ensemble de commettre un carnage. Elles sont aujourd'hui assises côte à côte dans le box des accusés, mais n'ont même pas échangé un regard. Inès Madani avait 19 ans quand, sur les conseils d'un djihadiste parti en Irak, elle se crée un avatar sur les réseaux sociaux. Abou Souleyman, ancien combattant revenu en France pour semer la terreur, c'est sous cette identité qu'elle entre en contact avec des complices. Elle tombe sur Ornella, 10 ans de plus, mariée, mère de famille, radicalisée. Dans sa déposition, Ornella raconte être tombée follement amoureuse d'Abou Souleyman à travers leurs échanges en ligne, au point qu'elle divorce religieusement de son époux. L'avatar parvient à la convaincre d'organiser un attentat avec sa sœur. Inès Madani change alors de rôle pour devenir la sœur. À quel moment Ornella Gilligman s'est-elle rendue compte que l'homme dont elle était tombée amoureuse était en réalité Inès Madani? Le président du tribunal ne le précise pas, mais explique que durant son audition, Ornella a chargé son ancienne complice. Ce sera tout l'objet de ce procès, déterminé les responsabilités. Les deux jeunes femmes encourent la réclusion à perpétuité. Marie Casadebé, au Palais de Justice de Paris.
Et puis, il y a un autre procès très médiatisé qui vient de démarrer en France, c'est celui du Mediator, mais on vous en dira plus dans quelques minutes dans, justement, le journal des actualités en France. Allez, un petit mot maintenant sur Scott Morrison, qui, pendant sa visite aux États-Unis, a beaucoup parlé de commerce. En ligne avec Donald Trump, il estime que la Chine doit prendre ses responsabilités en tant que puissance mondiale et faire preuve de davantage de transparence à propos de ses relations et partenariats avec un certain nombre de pays en développement. Scott Morrison, qui s'exprimait à Chicago dans le cadre du Council on Global Affairs, a aussi jugé nécessaire que les organisations internationales telles que l'Organisation mondiale du commerce s'adaptent à une réalité économique nouvelle.
The world has just reached a change point. That's all. There's no need to catastrophize it. There's just a need to understand it and work together to adjust the institutions and the rules to accommodate it.
Et vous en avez certainement entendu parler, la plus ancienne agence de voyage du monde, la britannique Thomas Cook, s'est déclarée en faillite après 178 années d'existence. La nouvelle a évidemment créé un véritable séisme dans l'industrie du tourisme mondial et les secousses se ressentent jusqu'en Australie, puisque l'une des conséquences de cette faillite, c'est que le voyagiste en ligne Webjet, qui opère en Australie et en Nouvelle-Zélande, a annoncé qu'il allait perdre plus de 43 millions de dollars. En fait, ces 43 millions de dollars, c'est une dette que lui doit Thomas Cook et qui, en raison de sa mise en faillite, ne sera jamais réglée. Et puis, la nouvelle a bien sûr aussi pris de court des vacanciers un peu partout dans le monde, puisqu'on estime qu'ils sont 600 000 à se retrouver bloqués sur leur lieu de vacances. C'est par exemple le cas de ce touriste suédois actuellement bloqué sur l'île de Chypre. Il pense que Thomas Cook aurait dû les informer de la situation plus tôt.
I'm a little bit disappointed because it was so early when we left Sweden, so I think they know something, should know something about this when we leave on Friday. So maybe they should stop us and say that stay in Sweden because we have problems.
Allez, on fait maintenant un point rapide sur la météo de ce mardi. Grand soleil à Perth où il fait 28 degrés, des nuages à Adélaïde où il fait 17 degrés, le ciel est nuageux aussi à Melbourne et le thermomètre n'affiche que 15 degrés. En revanche, il fait beau à Sydney pour 20 degrés, 25 degrés à Brisbane avec quelques nuages et grand soleil à Darwin avec 33 degrés.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.